Bonjour à tous. Alors, je prends quelques instants pour m'installer. Voilà. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une bonne année. Il est bon de marcher avec le Seigneur année après année. Et en ce début d'année, c'est vers lui que nous nous tournons une fois encore pour recevoir de sa part, recevoir de son enseignement et recevoir pour laisser nos vies se transformer. Cette année, comme les années précédentes, nous allons commencer l'année par un mois de janvier consacré à la prière. Alors, dans le bulletin qui est paru cette semaine, vous en avez un peu le programme et l'accent de ce mois de prière, il est surtout mis la semaine prochaine, pas celle qui arrive, celle d'après, puisque nous allons avoir une semaine consacrée à la prière avec des réunions de prière tous les soirs de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Vous retrouvez tous les détails dans le bulletin. Il nous semble important de commencer l'année comme ça. Une semaine de prière, et souvent, j'entends dire, les gens qui parlent de cette semaine disent, c'est notre semaine de jeûne et prière, alors qu'on ne le présente pas forcément comme ça, on n'insiste pas sur le côté jeûne et j'avais envie cette année, au moment de réfléchir à la prière ensemble, que nous nous posions la question du jeûne. Jeûne et prière, pourquoi est-ce qu'on parle de jeûne et prière? Est-ce qu'une semaine de prière, ce n'est pas suffisant? Qu'il faille rajouter quelque chose d'un peu plus extraordinaire, d'un peu plus grand avec le jeûne? Alors que le jeûne est quelque chose que nous pratiquons assez peu, à ma connaissance en tout cas, dans notre Église, ce n'est pas quelque chose auquel nous nous encourageons les uns les autres. Qu'est-ce que le jeûne, d'abord? Je vois qu'on a des plus jeunes parmi nous, hein, les ados n'ont pas repris l'école du dimanche encore. Est-ce que vous savez ce que c'est le jeûne, Nathan? C'est prier au lieu de manger. C'est pas mal. James? Se priver de nourriture pendant un certain temps pour réfléchir à ce que le Seigneur a fait. Vous parlez tous les deux du jeûne chrétien. Laisser certaines habitudes de côté pour passer du temps avec Dieu. D'une façon plus générale, le jeûne, c'est se priver de nourriture pendant un certain temps. C'est là la première définition du jeûne et il n'y a pas que les chrétiens, il n'y a pas que dans les religions, c'est pas qu'une pratique spirituelle, c'est simplement se priver de nourriture. Et plusieurs le pratiquent. Alors, c'est une pratique spirituelle répandue, hein. Plusieurs religions, croyances, pratiquent le jeûne. C'est quelque chose qu'on fait pour s'approcher de Dieu. Ça touche à la spiritualité, comme la lecture et la méditation de textes sacrés, comme la prière. C'est une pratique spirituelle. C'est dans la même catégorie de spiritualité. Certains pratiquent aussi le jeûne de protestation. Nous avons des personnes qui font la grève de la faim, qui se privent volontairement de nourriture pour marquer la force d'une position. Il y a aussi des personnes qui pratiquent le jeûne de façon médicale ou pour le bien-être. Et c'est assez à la mode. Hein. En cherchant sur Internet sur le jeûne, je suis plus tombé sur des sites qui vantent les mérites du jeûne pour notre bien-être personnel que de sites qui nous y invitent pour une pratique méditative. Donc plusieurs pratiquent le jeûne, mais est-ce que c'est une pratique chrétienne et pourquoi est-ce que c'est une pratique chrétienne ? Et quand on lit la Bible, quand on cherche la Bible sur ce sujet, il me semble que l'enseignement de la Bible, il est double. Il part dans deux directions. Déjà, il y a cette première direction, la Bible met un avertissement fort sur le jeûne. Attention, lorsque vous jeûnez, ne faites pas ça n'importe comment. C'est un avertissement fort. Et quand on le lit, on peut même penser que le Nouveau Testament, Jésus en particulier, décourage le jeûne. On y reviendra. Donc d'un côté, l'enseignement sur le jeûne, il est d'avertir. De l'autre, on voit dans la Bible et dans le Nouveau Testament en particulier, des croyants qui le pratiquent, qui pratiquent ce jeûne. Pourquoi le font-ils? Qu'est-ce qu'ils en retirent? C'est un peu le programme de ce temps ensemble, de ce temps de prédication, voir en deux temps les avertissements que soulève la Bible et voir en même temps pourquoi il est bon de le pratiquer. Là, je peux avoir. Non, on peut. Super. Alors, je disais, l'enseignement de la Bible, il n'est pas forcément positif, à fond, sur le jeûne, allez-y, sans retenue. En particulier, Jésus est prudent, il avertit, et pour comprendre l'enseignement de Jésus sur le jeûne, il est important de comprendre un peu ce qui se pratiquait à son époque, dans son pays. Jésus, il est juif, il pratique la religion juive, dans lequel le jeûne est pratiqué régulièrement. En particulier, le jeûne pour Yom Kippour, pour le jour du grand pardon. Et le jeûne, comme ça, c'est devenu une habitude. Une habitude que tout le pays pratique régulièrement. Et il y a des religieux aussi qui pratiquent le jeûne régulièrement. Et il est dans cette ambiance. C'est une bonne chose que de pratiquer le jeûne. Et le premier avertissement que Jésus peut apporter par rapport au jeûne, pas forcément premier dans le temps, le premier dont j'aimerais parler, c'est celui que Jésus donne avec cette parabole. Deux hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait intérieurement cette prière: « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de mes revenus. » Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin, retiré, n'osait pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et murmurait: « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » « Je vous l'assure, dit Jésus, c'est le dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui, déclaré juste par Dieu, car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. » Ce n'est pas par cet exemple que je voulais commencer, mais ce n'est pas grave, cet exemple est quand même pertinent. Cette histoire n'est pas une histoire réelle. C'est une parabole, une histoire que Jésus raconte pour illustrer un enseignement qu'il veut donner. Et dans cet enseignement, on voit deux hommes. Et le premier, pharisien, religieux, est fier. Fier de ce qu'il fait pour montrer son attachement à Dieu. Lui, il fait beaucoup de choses pour Dieu, pas comme les autres, et en particulier, il jeûne. Et il en tire une certaine fierté. On le voit hein, dans le texte, dans la façon dont il en parle. Il en tire une fierté. Il est fier de ça. Il est fier de sa conduite devant Dieu. Et il pense que ses efforts lui donnent un statut, lui donnent une place, lui donnent une fierté légitime. Et c'est un des pièges du jeûne de penser que ça va nous faire gagner des points. Ça va nous faire gagner des points de spiritualité parce qu'on le pratique, parce qu'on prend un temps où on ne mange pas pour faire plaisir à Dieu, eh bien, notre foi est plus grande, ou on sera mieux vu par Dieu, on sera déclaré juste. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, ce n'est pas comme ça que ça marche pour le jeûne, ce n'est pas ça, comme ça que ça marche pour la spiritualité en général. Quand on lit la Bible, et le Nouveau Testament en particulier, l'enseignement de Jésus et des apôtres qui l'ont suivi, on ne nous dit pas ce qu'il faut faire, combien de fois il faut jeûner, combien de fois il faut prier par jour, combien de fois il faut lire sa Bible. Mais on met toujours en avant la disposition du cœur. Et celui qui s'attache à des signes, à des choses qu'il fait pour croire que ça y est, il est bon, il est bien avec Dieu, eh bien, il est en train de glisser. Il est en train de glisser et il est en train de perdre la connexion avec Dieu, il est en train de perdre la sincérité. Autre exemple, autre enseignement de Jésus, dans le sermon sur la montagne, ce grand enseignement qu'il donne au début de l'évangile de Matthieu, Jésus dit à ses disciples qui l'écoutent, « Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent. Ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume tes cheveux, lave ton visage, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, sauf ton Père qui est là, dans le lieu secret. Alors ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ce deuxième texte ressemble au premier et en même temps il n'est pas pareil. Dans le premier, le pharisien se sent bien et fier en lui-même de ce qu'il pratique le jeûne. Là, les hypocrites qu'il ne faut pas imiter, c'est pour être bien devant les autres qu'ils jeûnent, pour se faire admirer. Et ça paraît grossier comme ça, mais c'est tellement facile. C'est tellement facile quand on est une communauté, quand on est en église, quand on est les uns avec les autres, de glisser doucement dans ce paraître et dans ce que les autres vont penser. Qu'est-ce qui nous rassemble ici? Ce n'est pas parce qu'on est amis, ce n'est pas parce qu'on se connaissait d'avant. Ce qui nous rassemble, c'est l'envie de venir vers Dieu. Et alors que nous nous rassemblons, on peut voir certains qui servent, certains qui prient, certains qui ont une foi comme ceci ou comme cela, et ça nous inspire et ça nous encourage, et c'est une bonne chose. C'est aussi pour ça que Dieu a voulu l'Église, pour que nous nous encouragions les uns les autres. Et encourager, il est facile d'aller dire à quelqu'un, ça m'encourage ce que tu fais. Et quand on va nous dire ça, on est content, et c'est normal. Et c'est même un encouragement pour nous à persévérer sur cette voie. Mais à partir du moment où ces encouragements qu'on nous donne deviennent importants. À partir du moment où on va les rechercher, on est en train de glisser, là encore. De glisser comme ces hypocrites qui ne jeûnent plus pour s'approcher de Dieu, mais qui jeûnent pour être vus, qui jeûnent pour qu'on dise « Oh là là, tu as une sale tête, tu dois être encore en train de jeûner. Oh, c'est bien ce que tu fais. » Jésus dit que ces gens-là, ils ont déjà leur récompense. C'est-à-dire que quand on leur a dit « c'est bien », et ben voilà, c'est ce que tu voulais, et ben tu es content. Mais ce qui nous invite à rechercher, ce n'est pas que les autres nous disent que c'est bien, mais que Dieu nous le dise. Et si vraiment c'est Dieu qui nous intéresse, alors les autres, ça ne nous intéresse pas. Faisons-le dans le secret, seul avec Dieu, ce temps passé avec lui. Ce temps passé avec lui. Parce que, finalement, le jeûne, je trouve, s'apparente à la prière. C'est un temps passé avec Dieu où je me concentre sur Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui a une valeur en soi-même. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'acte magique, causatif, c'est pas parce que je jeûne qu'il va se passer quelque chose. Je jeûne pour être avec Dieu, pour lui faire plaisir. Et je trouve, ça s'apparente à... J'aime bien utiliser cette comparaison souvent, mais ça s'apparente à ce qu'on vit quand on est amoureux de quelqu'un. Ce qu'on fait pour lui, c'est pas parce qu'on doit, c'est parce qu'on a envie. Et là, c'est la même chose. La prière, le jeûne, c'est parce qu'on a envie et qu'on recherche d'être avec Dieu et qu'on recherche ce point. Troisième avertissement de la Bible sur le jeûne, et celui-ci, il n'est pas de Jésus, il est avant Jésus. C'est un prophète, le prophète Ésaïe qui l'a fait. Dieu qui parle par la bouche de son prophète Ésaïe et qui reproche au peuple de Dieu sa façon de jeûner. Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez vos ouvriers. Vous passez votre jeûne en procès et querelle et en donnant des coups de poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Le jeûne qui me plaît. Et celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui que l'on voit nu. Ne pas te détourner de ton prochain. Le jeûne, ce n'est pas quelque chose qui nous détache du monde. Ce n'est pas se placer dans une bulle pour être seul avec Dieu. Au contraire, le jeûne devrait nous rapprocher des autres et voir leurs besoins. C'est ce que dit ce texte d'Ésaïe. Et pourquoi le jeûne devrait nous rapprocher des autres? Parce que le jeûne, c'est se rapprocher de Dieu. Et se rapprocher de Dieu, ça a des conséquences sur notre cœur, sur ce qu'on pense, sur ce à quoi on est sensible. Se rapprocher de Dieu a des conséquences sur notre cœur. En nous rapprochant du cœur de Dieu, de ce qu'il a à cœur, de ce qui est important pour lui, on acquiert petit à petit sa sensibilité. Et le cœur de Dieu, c'est de prendre soin du faible. Passer du temps avec Dieu, ça devient contagieux. Se rapprocher de Dieu sans se laisser transformer, eh bien, ça montre une mauvaise orientation de l'orientation de notre cœur, une mauvaise orientation de la pratique. Dernier avertissement, vous voyez qu'il y en a beaucoup dans la Bible, des avertissements sur le jeûne. Dernier avertissement sur le jeûne que je voulais mettre en avant, c'est celui qu'on voit dans le chapitre 9 de l'évangile de Matthieu. Les disciples de Jean, Jean le Baptiste, vinrent trouver Jésus et lui demandèrent « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas alors que nous, comme les pharisiens, nous le faisons souvent ?» Jésus leur répondit « Comment les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le marié est avec eux ? Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Personne ne rapièce un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve, car la pièce rapportée arracherait une partie du vieux vêtement et la déchirure serait pire qu'avant. De même, on ne verse pas dans de vieilles outres du vin nouveau, sinon celle-ci éclate. Le vin se répand et les outres sont perdues. Non, on met le vin nouveau dans des outres neuves, ainsi le vin et les outres se conservent. » Ce texte avec les anciens et les nouveaux vêtements, les anciennes et les nouvelles outres, vous le connaissez peut-être, hein, Philippe a prêché sur ce texte qui nous parle de changement de règles, changement de façon de faire les choses. Et ce texte, c'est un peu un texte charnière sur le sujet du jeûne. Jésus parle du jeûne et il semble dire qu'il est inadapté pour ses disciples, pour ceux qui le suivent. En tout cas, il est inadapté pour ce moment. Alors que les disciples de Jean, dont ils sont assez proches, hein, disent ben, « Nous, on jeûne, pourquoi vous ne vous jeûnez pas ?» S'ils sont spirituels, s'ils attendent la même chose que nous, ils devraient jeûner comme nous. Mais Jésus dit « c'est pas le moment ». C'est pas le moment parce qu'ils sont avec Jésus et c'est un temps de plénitude dans la présence de Jésus, un temps de joie, un temps de fête. Ce n'est pas un temps de contrition, un temps de privation. Un jour, Jésus ne sera plus là, et ce jour, nous y sommes, puisque après sa résurrection, Jésus est monté au ciel. Alors, les disciples jeûneront. Et vous voyez bien que Jésus n'écarte pas le jeûne. Mais le jeûne, il change. Il y a un changement des règles, on n'est plus avec ses anciens vêtements et on ne va plus vivre le jeûne comme on le faisait avant, dans le judaïsme, comme quelque chose de régulier, qu'on vit ensemble pour, comme une marque d'appartenance au peuple. Mais on vit comme quelque chose de plus libre dans la relation, parce qu'on aime le marié, parce qu'on aime Jésus et que ça a du sens à ce moment-là. Maintenant, se pose la question, la deuxième question. Nous avons vu les avertissements. Le jeûne, il ne faut pas le faire n'importe comment. Et si on le fait n'importe comment, c'est quelque chose qui va nous faire glisser, qui va nous faire croire que notre foi n'est pas ce qu'elle est, nous faire viser des choses qu'il ne faut pas viser, puisque ce qu'il faut viser, c'est la proximité avec Dieu. Comment pratiquer le jeûne, comment pratiquaient les personnages, les croyants du Nouveau Testament, comment pratiquaient le jeûne. Et j'aimerais donner deux exemples de jeûne dans le Nouveau Testament. Le premier, c'est Jésus lui-même. Luc chapitre 4, Jésus rempli de l'Esprit Saint revint du Jourdain et l'Esprit le conduit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Vous connaissez peut-être cet épisode, l'épisode de la tentation de Jésus dans l'évangile de Luc. C'est au tout début de son ministère. Première chose que Jésus fait quand il se met en route, c'est aller se faire baptiser. Et ensuite, il va dans le désert. Il jeûne pour être tenté. Et le texte biblique ne nous dit pas pourquoi il part jeûner. Il nous dit qu'il est tenté, mais il ne nous dit pas pourquoi. Et les commentateurs réfléchissent et peuvent émettre des hypothèses. Personnellement, je pense que Jésus prend ce temps à part dans le désert pour se connecter à Dieu, vraiment pour passer du temps seul avec Dieu et travailler ce lien et être vraiment accroché à lui avant de commencer son ministère et d'aller partout. Et donc, il passe du temps dans la prière, sans distraction et sans manger. Donc, Jésus va se rapprocher de Dieu et il va le faire à travers l'épreuve. Puisqu'il est tenté par le diable. Et ça nous pose une question, et une question qui est liée, je crois, au jeûne. Pourquoi Dieu nous fait-il passer par l'épreuve? Pourquoi Dieu a fait passer Jésus par l'épreuve? Dieu qui sait tout, connaît le résultat de l'épreuve. Il sait si on va tomber, ou il sait si on va triompher. Il sait, et il savait que Jésus allait triompher. Pourquoi faire passer par ce moment s'il connaît le résultat? Pourquoi nous faire passer par l'épreuve s'il connaît le résultat? Je crois que si Dieu sait ce qu'il va se passer, nous ne le savons pas. Et passer par l'épreuve, être confronté à l'épreuve, nous permet à nous aussi de savoir où nous en sommes par rapport à notre foi. Et je disais que ce sujet était lié, selon moi, au sujet du jeûne, au moment où on se lance ce défi de jeûner, de se priver de nourriture pour passer du temps avec Dieu. Ce n'est pas à Dieu qu'on va prouver quelque chose. Dieu connaît notre cœur. Il sait où on en est avec lui. Mais c'est une occasion pour nous-mêmes, dans notre relation avec lui, de nous lancer un défi, de voir où on en est, jusqu'où on est prêt à aller, jusqu'où on est prêt à tenir pour être proche de lui dans notre relation avec lui. Deuxième exemple de jeûne dans la Bible, dans le Nouveau Testament, celui qui a eu lieu dans le livre des Actes des Apôtres. On a la jeune église d'Antioche. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. On est à un temps particulier de l'histoire de l'Église. L'Église a débuté à Jérusalem. Avec la persécution, les croyants se sont dispersés géographiquement. Et puis, après avoir présenté le message aux seuls juifs, le message commence à être présenté à d'autres. Pierre est allé voir Corneille, qui est un Romain, et Barnabas est allé à Antioche pour évangéliser là-bas. Et l'Église se demande que faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, a priori, pendant un culte habituel, ils sont là, ensemble, ils adorent le Seigneur et ils jeûnent. Et pendant ce temps où ils sont ensemble, le Saint-Esprit leur parle. Il leur parle pour leur dire, Paul et Barnabas, vous les prenez, vous ne les gardez pas pour vous dans votre église, mais vous les envoyez pour évangéliser. Et quand on lit les Actes des Apôtres et quand on lit le reste du Nouveau Testament, on voit que ce n'est pas une petite œuvre qui a été faite. Paul est allé planter un certain nombre d'églises et l'église s'est répartie. Il y a une avancée majeure dans l'histoire de l'église à partir de ce temps de discernement. Mais pour revenir aux jeunes, cette église qui était en recherche a reçu cette parole du Seigneur, a reçu cette parole du Saint-Esprit dans un temps où elle jeûnait. Et je crois que c'est aussi une raison pour laquelle nous pouvons pratiquer le jeûne, pour être particulièrement à l'écoute et écouter ce que Dieu a à nous dire. Jeûner. Jeûner pour se rapprocher de Dieu, pour grandir dans sa foi, savoir où on en est avec Dieu, pour discerner la volonté de Dieu, pour moi, individuellement ou ensemble, en Église. Je relis ce verset que nous avons déjà lu, Jésus qui dit « Les invités d'une noce ne peuvent pas être tristes tant que le marié est avec eux. Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé. Alors, ils jeûneront. » J'ai lu pendant ces vacances un livre du théologien américain John Piper sur le jeûne. Et John Piper a une vision intéressante du jeûne, où il dit que par le jeûne, en ayant faim de nourriture, nous travaillons notre faim de Dieu. Nous vivons dans un monde confortable. Nous bénéficions d'un confort, mangeons à notre faim. Et ce confort peut nous endormir. Et ce qu'il dit, que je trouve intéressant et que je me plais à répéter, c'est que nous mettre dans l'inconfort en jeûnant et en ayant faim nous rappelle que nous avons faim de Dieu. Nous avons faim de Jésus. Nous avons faim de son retour qui tarde, mais qui arrive, il nous l'a promis. Son retour que nous attendons. Et jeûner, avoir faim volontairement, nous rappelle que toute notre vie, nous avons faim parce que nous sommes tournés vers ce retour que nous attendons. Voilà donc le jeûne avec cet enseignement biblique, enseignement à la fois très prudent, ne le faites pas pour de mauvaises raisons, mais en même temps témoignage de ce que nous sommes invités à jeûner et de ce que les croyants le faisaient et de ce qu'ils en ont été bénis. Alors nous, qu'allons-nous faire? Comment jeûner en pratique? Je voulais terminer cette prédication avec quelques pistes. Et je vous rappelle ce que j'ai dit au début, nous avons une semaine de prière qui est prévue, non pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Pourquoi ne pas y ajouter le jeûne? Cette semaine de prière, nous voulons la voir en ce début d'année pour nous consacrer en tant que communauté au Seigneur, pour nous mettre à son écoute. En particulier, nous voulons élargir le conseil qui dirige l'Église. Nous avons besoin de nous laisser guider, d'être à son écoute. Et puis, travailler notre faim du Seigneur, c'est toujours une bonne idée. Alors, si on n'a pas l'habitude de jeûner, ça va être difficile de passer de rien du tout à une semaine de jeûne. Et il ne faut pas mettre de côté l'aspect physique qui est difficile. C'est comme quelqu'un qui veut courir. Hein. Quand j'ai repris la course, j'ai commencé par faire juste un tour du stade. Puis après, je suis rentré chez moi. J'avais besoin de ça, je ne pouvais pas faire plus. Ça va mieux maintenant. Mais si on n'a pas l'habitude, on peut commencer par un jeûne de 48 heures ou un jeûne de 24 heures. On peut aussi décider de ne pas jeûner tout le temps. J'ai entendu parler de personnes qui décident de jeûner entre 6 heures et 18 heures. On peut aussi, ça a été évoqué au début, se priver d'autre chose. Si se priver de nourriture nous paraît difficile, on peut se priver d'autre chose. On cite souvent la télévision comme quelque chose dont on peut se priver pour un temps. Une autre chose, à mon avis, qui est pertinente aujourd'hui, c'est le mobile ou en tout cas les réseaux sociaux. Je ne résiste pas à la tentation de vous lire ce qu'écrit Tish Harrison Warren à ce sujet, à un temps où justement elle a été appelée par le Seigneur à s'éloigner des réseaux sociaux. À cette époque, écrit-elle, le matin à peine réveillé, j'avais l'habitude de me jeter sur mon smartphone. Cette caféine numérique poussait mon cerveau embrumé à me mettre en marche, à retrouver sa cohérence. Avant de me lever, j'allais donc consulter mes courriels, parcourir les actualités et jeter un coup d'œil à Facebook et Twitter. Mon rituel matinal du téléphone ne durait pas bien longtemps, 5 ou 10 minutes, pas plus, mais j'étais imprégné. Ma journée était imprégnée par la technologie et, tel un bébé puma attaché à ses humains, je considérais mes écrans comme la source de toute bonne chose. La technologie a commencé à combler les moindres instants de vide de mes journées. Juste avant le petit déjeuner, j'allais voir mes courriels, ma page Facebook, mon compte Twitter, 1 ou 2 blogs, idem 1 heure plus tard. Mes enfants me réclamaient du lait ou quelque chose à grignoter et ils avaient beau insister, je les ignorais. « Attends !» répondais-je distraitement en parcourant des yeux tel ou tel article. Je me connectais 5 minutes en douce avant qu'ils déjeunent. En revenant des courses, je restais dans l'allée sans couper le moteur pour consulter les nouvelles sur mon téléphone et j'y retournais avant d'aller me coucher. Ainsi, tout au long de la journée, je me nourrissais d'un flot presque ininterrompu d'actualités, de divertissements, de stimulations, de likes et de retweets. Sans m'en rendre compte, je m'étais créé une habitude, à la fois une crainte de l'ennui et une grande habileté à y résister. Le témoignage de Tish Warren, qui décide, dans un temps de carême, de ne plus prendre son téléphone la première chose du matin, mais de s'asseoir sur son lit et de penser à Dieu. Peut-être ça peut être ça pour nous, comme jeunes, pendant cette semaine de prière, ou autre chose. Et ce que je vous propose peut-être, c'est d'avoir un temps court devant Dieu, de se poser la question, de quoi est-ce que je pourrais jeûner? Comment est-ce que je peux mettre du temps à part? Comment est-ce que je peux cultiver cette faim, ce manque qui me tourne vers Jésus, qui nous manque et d'où nous attendons le retour? Prenons un temps de silence. Seigneur, nous t'aimons. C'est pour ça que nous sommes là, nous l'avons chanté avec conviction. Nous t'aimons. Mais parfois, pris dans le mouvement de la vie, nous avons du mal à vivre cet amour, à avoir notre cœur qui est calé sur le tien, les mêmes priorités que toi, à discerner ta volonté pour nous, pour nos vies. Et Seigneur, j'aimerais te prier que tu nous aides à nous rapprocher de toi. Seigneur, nous avons cette possibilité du jeûne, cette possibilité pour laquelle tu nous avertis et je te prie que tu nous gardes de tomber dans le légalisme ou l'hypocrisie, de jeûner pour les autres, parce qu'on doit, ou pour soi-même, pour se rassurer. Mais aide-nous à cultiver de te rechercher. Oui, Seigneur, attire-nous à toi, que nous soyons plus près de toi pour cette semaine que nous voulons consacrer à la prière, pour l'année qui s'ouvre, pour toute notre vie. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.